Cet épisode a été enregistré le 21 mars 2024. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball, Séoul. France équipe, 2 bureaux et 1 podcast par jour. C'est l'épisode 25, c'est présenté par moi, Mike, et celui qui un jour a lui aussi cassé une barrière de couleur, mais avec son SUV, Guillaume.
Salut à tous, salut Mike.
L'abondance, ce qui est disponible en très grande quantité, à ne surtout pas confondre avec l'indécence qui passe les bornes du bon sens, excessif, exagéré. Bienvenue chez les Los Angeles Dodgers. Marty, je sais plus Marty, après 25 épisodes, c'est vrai ou pas? C'est la bonne saison, c'est 2023? Bah doc, en vrai, j'ai tourné la roue, j'ai mis au hasard l'année, parce qu'avec les Dodgers, on connaît tous la fin, en vrai. Eh oui, parce qu'avec les Dodgers, on connaît tous la fin. Premier de la division, avec plus de 16 matchs d'avance sur les D-backs, 100 victoires, 62 défaites, top 5 du line-up, top 10 de la starting rotation, top 3 du bullpen, vraiment énorme, énorme, énorme. Quatrième meilleure saison régulière de l'histoire de la MLB. Non, je ne crois pas, je crois que ça c'était l'année d'avant. Ils ont roulé sur la division et la MLB en régulière, comme d'hab, bien moins que les 111 wins de 2022. Troisième bilan derrière les Braves et les Orioles dans une division où il existe les Rockies. Bon, on pinaille un peu. Ne perdons pas de temps parce qu'en vrai, ce qu'on attend d'eux, c'est la trade deadline, le mois de novembre et la off-season. Le reste, c'est un peu optionnel, hein. 16 wins quand même d'avance sur les D-backs. Hein. Je veux qu'on revienne là-dessus puisque ça devient un petit peu lassant. On commence à dire, bon, c'est normal, les Dodgers, c'est normal. Pitching, bah, hormis Kershaw et l'excellent retour de Dustin May, la starting rotation finalement, elle a été un peu coussi coussa, obligée de composer avec encore beaucoup de blessures, Clayton Kershaw, WAR 3-7, ERA 2-46, et le tout sur seulement 131 in pitch avec 137 strikeout, juste comme ça, starting pitcher, l'ERA est 20e, après, whip, BB par 9, hit par 9, top 10. Donc pas beaucoup de cas, mais plutôt régulier. Top 3 des bullpen de la ligue, pardon. Vraiment, 3 des top war pitching sont des releveurs. Gratrol, Brazier, Phillips. Au niveau des reliefs, ils sont 3e en ERA, 1er en whip, 2e en BB par 9, 5e en hit, 3e en home run. Je m'étouffe même carrément. Au niveau du batting, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'un des tout meilleurs line-up. Ils sont 2e en OBP, en OPS, en run, en home run de toute la MLB. Ils sont 19e en stolen base parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre des risques. Et bah ouais, parce que Mookie Betts, bah All-Star, 2e au vote de MVP, Silver Slugger, il affiche une WAR à 8,3. 307 de batting average, un OPS plus à 163. Je vous donne même pas les stats de Freddie Freeman parce que c'était d'une indécence absolue d'avoir deux joueurs dans ce niveau-là. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Dave Roberts, hein, qui continue. Après l'immunité de 2020, on se demande encore combien de temps la trade deadline. Bah, la trade deadline, ils ont fait du Dodgers sans faire vraiment du Dodgers. Ils ont récupéré Lance Lynn, Ryan Yarbrough, du cash, Ahmed Rosario, Kike Hernandez, Tyson Miller, Pat Valaika, et puis ils ont laissé partir dans les noms qu'on connaît un petit peu plus, Noah Syndergaard, Trace Thompson, et puis Adam Kolarek et Phil Bickford. 8 moves au total, 11 départs, 7 arrivées. Donc ils ont vraiment fine-tuné l'effectif tout en libérant des espaces pour préparer la off-season. Mais c'est secret, on ne sait pas qui
c'est. C'est pas déjà ce qu'ils avaient fait quand ils ont commencé la saison l'année dernière, ils n'avaient pas déjà tuné.
C'est pas comme si on l'avait déjà dit. Du coup, sur les événements un peu spéciaux, bah, pas grand chose à se mettre sous la dent, parce que quand on vous dit qu'on les attend en novembre, en fait, le reste, on s'en fout. Toute la saison, ils roulent sur la division, et puis, bah, on laisse faire, on voit, on arrive. Pecota, les voyez, à 96 wins, 76 défaites et premiers. Ils y étaient, encore un petit peu en dessous de leur réelle domination, mais ils y étaient. La post-season, bah, qualifiés directement en Division Series, second, troisième bilan. De la MLB, pardon, deuxième, je crois, en 2023, ils devaient affronter bah, les D-backs, et puis ça a fait comme en 2022, ils affrontent l'équipe de leur division, un aller-retour sans escale, cette fois-ci, un petit Fanny, Clayton Kershaw, playoff lab, as usual, avec une ERA à 162, mesdames et messieurs, la légende s'est encore fait bien défoncer, 0-1 inning pitch, 6 earned Ron. Après, c'est
bien,
légèrement.
Attends, juste une question. C'est l'ERA qui est à 162, c'est pas l'ERA plus, hein, c'est l'ERA
non, je
qui est
crois
à
que c'est l'ERA.
162.
Je crois que c'est l'ERA. Quand
D'accord,
tu
ok.
prends Sion Run en 0-1, je crois que c'est l'ERA. J'ai même pas regardé l'ERA plus, ça doit faire flipper. Après, c'est légèrement plus accroché sur les deux autres matchs, mais en vrai, ils auront été à égalité deux manches sur les 27 disputés, où ils auront toujours été derrière. Donc, ils ont été dominés par les D-backs, hein, 11-2, 4-2, 4-2, voilà. Rien à dire, rien à faire. Ils se sont fait gentiment balader. Donc, quand c'est la fin de la post-season, Guillaume?
Eh ben, on va passer finalement à la post-season. Allez, la post-season, les Dodgers, l'année précédente, en 2023, c'était un actif payroll de 219,8 millions de dollars. Cette année, 216,2 millions de dollars. Donc, une petite baisse. On ne peut pas appeler une baisse quand on est au-delà des 210 millions de dollars. On va dire que c'est kiff-kiff. On est en train de se dire, enfin, encore en baisse, c'est aussi grâce au montage financier. On va y revenir après. On se dit que malgré les joueurs suivants, ils peuvent être que le 9e payroll de la ligue avec Betts, Freeman, Glasnow, Ohtani, Smith, Buehler, Yamamoto. C'est le plus gros payroll MLB de 2021 et 2022, mais ça doit être ça la récession américaine, sûrement. Les enjeux avant la post-season, ça tient en un prénom répété plusieurs fois. Shohei, 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 Shohei. Voilà. Donc en arbitration, ils ont évité l'arbitration avec 6 relievers, avec Will Smith catcher, Gavin Lux seconde base, Dustin May starter, Walker Buehler starter, et ensuite donc les relievers Alex Vesey, Evan Phillips, Caleb Ferguson, J.P. Feyerheisen, Ryan Yarbrough et Bosdar Gratterol. Oh, ça va être compliqué.
C'est en tellement bien prononcé.
Arrête de te foutre de moi. En free agency, ils ont conservé Clayton Kershaw pour un an et une option pour 2000 pour l'année suivante. Ryan Bregier, relever pour 2 ans. Joe Kelly, relever pour 1 an. Enrique Hernandez pour 1 an. Jason Hayward pour 1 an. Ils ont signé Teoscar Hernandez, right fielder pour 1 an. Shohei Ohtani, DH pour 10 ans. Yoshinobu Yamamoto, alors 10 ans de contrat. Je ne vous dis pas combien de temps ils vont le payer. Yoshinobu Yamamoto, starter pour 12 ans. Lui, il devrait le payer 12 ans, mais peut-être plus, on ne sait jamais. James Paxton, starter pitcher, 1 an. Rick Vanasco, relief pitcher pour 1 an. Ils ont perdu Tucker Barnett, catcher. Oscar Mercado, right fielder. Colton Monk, deuxième base. Jake Marisnik, center field. J.D. Martinez, DH. Ahmed Rosario, shortstop. David Peralta, left fielder. 2 relievers, Daniel Hudson et Alex Reyes. Et 3 starters, Lance Lynn, Julio Urias et Shelby Miller. Et 18 autres joueurs également. Soit encore 31 départs à la free agency. Au niveau des trades, Noah Miller qui est acquis des Twins en échange de Manuel Margot et Ray Duncan, c'est Jackson Ferris, un starter, et Zier Hope et Brian Hudson des relievers qui sont échangés contre Michael Bush et Yency Almonte aux Cubs. Ils récupèrent Justin Chambers des Brewers. Ensuite, un échange avec les Rays où ils récupèrent Tyler Glasnow et Manuel Margot, mais qui ensuite repartira donc aux Twins, qui sont tradés contre Johnny DeLuca, un outfielder, et Ryan Pepiot, starter. Et ensuite, ils ont récupéré des Yankees de Trey Sweeney contre Victor Gonzalez, relever, et Jordi Vivas, un relever. Ensuite, les blessés, 7 joueurs à l'opening day en 2021, 7 joueurs en 2022. Allez, on change pas une équipe qui gagne, 7 en 2023 et pas les pires encore une fois. Walker Buehler, on sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, le starter, Emmett Sheehan starter et qui ne sera pas là pour l'opening day, tout comme Bruce Dargatroll le relever, Blake Treinen le relever, Dustin May starter, on se pose des questions sur sa participation à la saison 2024, tout comme Tony Gonsolin également starter, questionable pour la saison, et Clayton Kershaw qui sera out pour au moins la première partie de la saison. Qu'est-ce qu'on peut dire si on devait mettre une note aux Los Angeles Dodgers sur leur off-season? Bah, c'est un A+. À partir du moment où tu arrives à choper Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto plus Tyler Glasnow, plus après des petits, enfin, on dit des petits échanges, mais parce que par rapport à ces trois-là, c'est quand même déjà énorme. Et ils se sont fait une rotation pour les années à venir. Et avec Shohei Ohtani, c'est non seulement une rotation, mais en plus un DH de luxe, quoi. Donc, c'est sûrement la meilleure off-season des Dodgers. Et pourtant, et même de la Ligue, et pourtant, ils nous avaient déjà habitués à faire des acquisitions de fou. Donc, comme si ces acquisitions ne suffisaient pas, bien évidemment, ils sont considérés par beaucoup comme l'un des meilleurs farm systems de la Ligue, encore en 2023. Ils ont des atouts pour le futur, et surtout de la monnaie pour du trade. Ils sont 3e. Ils ont 2 joueurs, dans le top 100, mais qu'on verra pas cette année puisqu'il devrait arriver en 2025. Dalton Rushing, un catcheur première base, et Nick Frasso, un droitier, un lanceur droitier. Le line-up prévisionnel, donc catcher Will Smith, première base, Freddie Freeman, deuxième base, Gavin Lux, troisième base, Max Muncy, shortstop Mookie Betts, champ gauche Teoscar Hernandez, au centre James Outman, à droite Jason Hayward, Andy H. Shohei Ohtani, sur le banc Austin Barnes, catcher, Miguel Rojas, infielder, Enrique Hernandez, utility player, et Chris Taylor, utility player. La rotation, elle fait très mal, normalement, starter Taylor Glasnow, ensuite Yoshinobu Yamamoto, c'est lui hein, en vrai, enfin normalement. Ensuite, Bobby Miller, James Paxton et Gavin Stone, zéro starter de l'opening day de 2023. En closer, Evan Phillips, en setup, Joe Kelly et Ryan Brazier. En bullpen, Daniel Hudson, Alex Vezia, Blake Treinen, Ryan Yarbrough et Michael Grove. On retient quoi et qui dans cette équipe, Matt, Mike, pour la saison prochaine?
Moi, je pense qu'on peut commencer par Michael Grove, le releveur. Non, je déconne. oui, Shohei Ohtani, ils ont signé le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue, selon tout le monde. Cette année, il va juste être DH, ce qui fait qu'en vrai, peut-être qu'en DH, le gars, il va avoir encore un impact vraiment digne d'un MVP. Il frappera peut-être même mieux que quand il doit lancer. Il va frapper peut-être plus souvent. Et puis, on va dire que pendant 10 ans, c'est un contrat qui est franchise friendly pendant 10 ans.
Ouais, parce que les 10 prochaines années, par contre, ils vont craquer comme des malades, quoi. Ouais, c'est un montage financier qui a beaucoup fait parler de lui, puisque en fait, ils sont censés le payer. Si je me trompe pas, c'est 50 millions hein, par saison, c'était prévu.
Je crois.
Et donc, et, en fait, ils le payent que 2 millions, 3 millions par an. Ouais, je crois que c'est 2 millions par an. Et, ouais. Et ensuite, il y aura 48 millions, pendant 10 ans, ils le payent 2 millions par an. Et après les 10 années suivantes, ils le payeront quand même, alors qu'il ne jouera peut-être plus pour la franchise, 48 millions par an pendant 2 ans, pendant 10 ans. Donc voilà, c'est un montage financier qui est hyper friendly. On va pas revenir dessus, on l'a déjà expliqué, et c'est pas le but de rentrer dans les détails là-dessus. Donc lui, c'est vraiment le futur MVP. Même ce serait la première fois qu'un DH, je pense que lui, il pourrait le faire, être DH et être élu MVP vu l'aura et la classe du bonhomme. Et
on après, on se rend compte quand même qu'il est projeté sixième, hein, selon FanGraph, hein, sixième joueur, ouais, en étant que DH. Donc c'est signe aussi que pour sa septième saison, parce que ça fait déjà 6 ans qu'on voit Shohei Ohtani, mais comme c'était entrecoupé de blessures, c'était un petit peu compliqué, le gars devient le franchise player, le visage de l'équipe, parce que à côté, en vrai, c'est des pipes, c'est pour ça aussi, je pense, hein, parce que les autres sont nuls.
Ouais, c'est bien connu, quand tu n'as que Freeman et Betts à côté, et oh là là. Alors, pour le moment, on parle que du line-up. Hein. En Freeman et Betts, c'est deux MVP en puissance, quoi. On vous l'a déjà dit, c'est le meilleur duo MLB des 10 dernières années, presque. Top 2 et 3 en WAR en 2023, top 4 et top 9 en WAR en 2022. Et on peut continuer comme ça. Enfin, de toute façon, ils sont inarrêtables. Si tu regardes le 1-2-3 qui est prévu pour l'année prochaine, juste sur les projections de FanGraph, c'est le 3e overall Mookie Betts, suivi du 6e overall Shohei Ohtani, suivi du 4e overall Freddie Freeman. Derrière, tu as quand même Will Smith qui passe, Max Muncy, Teoscar Hernandez, James Outman, et derrière, tu termines par Jason Hayward et Gavin Lux. Putain, ce line-up, mais comment il pique! Mais il pique!
Non, c'est une folie douce, en fait, ce line-up, parce que t'as quand même un truc, ils ont aussi, je sais pas si, mais ils ont une profondeur de malade. C'est-à-dire que ils ont Miguel Rojas, Chris Taylor, Kike Hernandez, Austin Barnes sur le banc. Ça veut dire que quand tu vas vouloir faire souffler tes starters, t'as quand même 4 bonhommes qui, dans près de la moitié des équipes de la Ligue, seraient titulaires.
Hein, ouais, c'est clair.
Donc c'est une folie. Miguel Rojas, on sait, c'est plutôt pour le bat, pour le gant, etc. Mais je veux dire, là, on est vraiment sur un truc totalement fou. Il y a des petites questions. Hein, on va pas se mentir. On sait que le trio là, Ohtani, Freeman, Betts. On avait déjà en Freeman et Betts, je sais pas si tu l'as dit, mais le top 10 ou le top duo en termes de WAR sur les 2-3 dernières années. Mais là, on va avoir le trio parce que c'est quasiment sûr s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de problème. Derrière, on rajoute toute la liste de ce que tu as dit. Il reste des questions. Bon, il reste des petites questions. On le sait, la question, elle est essentiellement sur Gavin Lux. Le gars, il est revenu Déjà, il était projeté de shortstop. Il va passer deuxième base. Apparemment, de ce qui se dirait, notamment via Ken Rosenthal, il aurait ce qui s'appelle les hips. Les hips, c'est la peur, en fait, de jouer la balle pour la relancer en première base. Donc, il passe en deux. Mookie passe en short. Le gars s'est entraîné tout l'hiver pour être deux, alors qu'il était right field. Il va passer shortstop. C'est peut-être la petite adaptation sur laquelle on peut avoir un doute. Mais franchement, ça s'appelle pinailler. Hein. Ça s'appelle pinailler parce que ce line-up-là, c'est pas là où on a les vraies questions pour les Dodgers, parce que ce line-up là, s'il n'est pas dans le top 3 des meilleurs line-up de la ligue, s'il n'a pas au moins 4 ou 5 joueurs qui ont des votes de MVP, bah c'est à rien y comprendre.
Non, la question, elle n'est pas là-dessus, parce qu'on sait que le line-up, il y a, à moins d'un gros problème ou d'un gros souci, il y a de grandes chances pour qu'il soit super effectif et qu'il soit vraiment bon dès le début, quoi. Non, là, la question, elle va se poser surtout pour le moment au niveau de la rotation, parce que la rotation, en fait, bah, comme on disait, il y a zéro starter de l'opening des 2023, c'est-à-dire que tu pars à zéro. Alors, OK, tu as trois gros noms qui commencent, tu as Glasnow, tu as Yamamoto. Et le dernier, c'est bon, enfin, je l'ai perdu.
C'est
Donc, t'as
beaucoup. Non,
Glasnow.
alors, après, t'as Miller, Paxton et Stone. Mais c'est surtout que tu as Buehler et Kershaw qui sont, et Gonsolin qui sont sur la touche physiquement. Gonsolin, c'est quasi sûr qu'il ne reviendra pas dans le.
Ouais, et May aussi, parce que May aussi,
Mais
parce que
c'est quasi sûr qu'il ne reviendra pas.
même si on l'a pas vu beaucoup, il a quand même été impressionnant, pas sur la
Ouais.
saison 2023, mais en 2022, il était bon. Tony Gonsolin est excellent en 2023. Walker Buehler, on sait que c'était un ace en puissance. Donc là, bah, tu mets Glasnow, le problème, c'est que sur les 4 dernières saisons, je crois qu'il a pas fait plus de 120 innings,
Je crois
par
qu'il l'a
saison.
jamais fait. Je me demande s'il l'a pas jamais fait dans sa carrière.
D'accord, bah
Je vais
donc c'est
revérifier,
donc tu te
mais.
poses vraiment des questions, et en plus il sort de blessure. Là, en même temps, on fait l'épisode après qu'il y ait eu l'opening day de Séoul qui soit passé, c'était hier, donc on l'a vu lancer. Moi, j'ai trouvé franchement que ça a l'air d'aller pour au niveau du
Non,
lancer. Il a
mais
récupéré sa fastball, il a une curve qui est toujours hallucinante.
Glasnow quand il lance en forme, très honnêtement. Pour moi, c'est en termes de talent et de possibilités, c'est un top 15, top 10 des starters de la ligue. Moi, de mon avis, j'adore ce lanceur. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'a jamais lancé plus de 120 innings en carrière
D'accord.
sur une saison. Donc, c'est vraiment un homme de verre, en fait. Et ils lui ont donné un contrat pas trop team friendly, hein, le contrat de Tyler Glasnow. Si je ne me trompe pas, il va toucher un truc genre 136 millions sur 5 ans.
Ouais, c'est ça. En
Donc,
fait,
c'est.
ils estiment en fait qu'il a souvent été, qu'il a quasiment sur toutes les saisons qu'il a passées en major, les premières années il a été un peu rushé, il avait des difficultés physiques, il se sentait pas bien, mais il a commencé à lancer dessus. Et en fait, ils considèrent que il a été blessé quasiment toutes les années parce que c'est arrivé d'un moment où il était en faiblesse déjà. Et ils pensent que après justement cette année ou année et demie où il a pas lancé, il devrait revenir en forme et à partir de maintenant, il devrait être capable de le faire. Après, c'est que des, mais c'est comme tout, hein. Tu fais des paris sur des joueurs en te disant, bah
Non,
voilà,
mais
lui on va le prendre, on verra
le
bien,
point
quoi.
sur Glasnow, c'est que je pense qu'on va avoir une Snell du passé. Si vous êtes en fantasy, ne prenez pas Glasnow, les gars. Hein. Enfin, de ce qui est annoncé par les coachs des Dodgers, il va avoir très peu de quality start. Hein. Parce que s'il s'arrête 4 ou à 5 manches régulièrement, ce sera pas surprenant. Ce qu'ils veulent, c'est le garder pour la post-season. Parce qu'on l'a dit, ce qui intéresse les Dodgers, c'est octobre-novembre. Le reste, ça les intéresse pas trop. Et en fait, là-dedans, tu as un autre souci, c'est qu'on a Paxton dans le mix qui a jamais fait. Qui a fait que 25 starts en 4 ans. Ils ont encore le Buehler Kershaw blessé. Voilà. Après, si on arrive sur octobre où les mecs sont en santé, oui, Yamamoto, Glasnow, Buehler, c'est autre chose que Kershaw, Lynn et Miller. En 2024, j'entends. Y a pas photo. Ils ont calibré cette rotation pour la post-season. Et la régulière, elle leur semble quasiment acquise. Et en vrai, avec cette rotation, et ils ont un autre truc aussi, hein. On parlera de Yamamoto après, mais ils ont quand même un bullpen qui pique sa mère. Ils ont un bullpen de folie. Le Kelly, le Cradrall qui est blessé, mais le Brager, Grove qui est très très bien projeté. Enfin, ils ont un excellent bullpen. Excellent bullpen.
Ouais, le problème, c'est qu'ils ont un excellent bullpen, mais ils n'ont pas de vrai closer, quoi. C'est ça la question, quoi. Donc,
C'était Phillips.
Ben, c'est ça. Donc là, jusqu'à il y a quelques années, ils étaient avec Johnson, c'était parfait et tout, machin. Mais là, ils n'ont pas réussi à trouver. Moi, je pensais que c'était Gratterol, tu vois, Bruce Dark Gratterol, parce qu'ils ont ce fort puissant. Je pensais que c'était lui qu'ils allaient finir par mettre en closer. Je pense qu'ils avaient ça dans l'idée aussi quand ils laissent Johnson partir. Et puis finalement, non. Donc là, en fait, tu te retrouves effectivement avec un bullpen qui est énorme et puis qui a déjà été énorme l'année dernière. Donc voilà, et c'était leur force l'année dernière, il faut que ça le reste. Mais aujourd'hui, on se pose quand même en fait des questions à savoir qui va closer quoi.
Ouais, c'est vrai, et surtout, on l'a dit, hein, ils ont quand même des gros chips parce qu'ils sont troisième farm system, ils ont encore pas mal de mecs qu'ils ont pour beaucoup d'années. On n'est quand même pas à l'abri qu'ils tentent un move pour aller récupérer du Bednar, du classé, des gros noms dans des équipes qui sont prêts à faire des trades. Ils ont un bon bullpen qui a très très bien performé au niveau collectif. Maintenant, la question c'est ils vont avoir une rotation de mecs blessés. Parce que c'est ça. Donc, ils vont beaucoup, normalement, ils devraient beaucoup faire appel au bullpen. Et c'est vraiment là où la question se pose de est-ce qu'ils vont supporter dans ce pitching staff ce truc-là? Parce que les noms sur le papier sont très bons, font rêver. Les performances récentes font un peu flipper. Et il y a une grosse inconnue, c'est les 300 millions pour Yamamoto. C'est lui qui, normalement, devrait devenir l'ace. Ce qu'on a vu de lui au Japon, c'est incroyable. Maintenant, on va voir s'il va s'adapter aux Majors, s'il va s'adapter dès la première année aux Majors,
Ouais, c'est ça surtout.
hein, et si il va être déjà un ace ou alors un très bon lanceur. C'est une vraie question, Yamamoto, il va leur coûter cher, ils ont énormément investi dessus. Après, très honnêtement, la stratégie du club, c'est ils se sont dit, mec, on a fait des trade deadline et des off-season de malade depuis 5-6 ans avec les Betts, avec les Scherzer, avec les Trea Turner, les mecs ont ajouté et ajouté et ajouté du talent, en veux-tu, en voilà. Là, ils ont tout fait depuis 2 ans pour avoir Shohei Ohtani. L'idée, c'est que maintenant, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Hein. Maintenant qu'ils l'ont eu, en vrai, ils peuvent. Glasnow peut partir à la trade deadline hein, si jamais ils estiment qu'ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Enfin, en vrai. Parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est une bague. Et c'est pas une bague. Hein. Quand tu signes Shohei Ohtani avec ce type de contrat, t'as sécurisé Freeman, quand t'as sécurisé Bretz, là je déconne pour Glasnow, mais quand t'as sécurisé Glasnow, ils ne font pas ça pour avoir une bague. La stratégie, c'est pour en avoir plusieurs. Donc les Dodgers, on va les juger encore une fois si à la toute fin, ils sont les gagnants de cette MLB, des World Series. Sinon, ce sera toujours un échec. On parle d'échec,
Bah.
Guillaume. Eh oui, c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parions à Tort, le seul site de paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Donc, Guillaume, post-season ou pas post-season pour les Dodgers en 2024? Et fin de ton raisonnement, du coup, parce que je t'ai coupé la parole salement.
Non, post-season, c'est post-season, je pense que c'est quasiment sûr. À moins vraiment d'un gros problème, je pense qu'ils feront la post-season. Après, je les vois de toute façon terminer premier. Je les vois terminer premier, même si je pense que par rapport à ce qu'on a déjà dit avant, il y a eu des moves dans la National League West qui font peut-être un peu changer les avis qu'on a pu donner auparavant. Mais non, je pense que les Dodgers, vu ce qu'ils ont, vu l'effectif, je pense que je les vois encore premiers, aller en playoff et j'espère pour eux passer au moins le Division Series et aller au moins Championship Series.
Écoute, moi aussi je les vois premiers. Je vois pas quelle autre équipe dans la Ouest, même s'il y a eu des moves et on en parlera parce que c'est la malédiction des comptes pleins, notamment on parle de Blake Snell et Giants. Je vois pas qui peut concurrencer ce line-up. Cette rotation elle pose des questions, mais en vrai elle a beaucoup plus de qualité que de défauts. Donc oui, je les vois premiers et le problème en fait c'est que à tout miser sur une rotation uniquement pour le mois d'octobre, j'ai peur que ils n'y arrivent pas à la bâtir cette rotation pour le mois d'octobre. Donc j'attends de voir ce qu'il en est, j'attends de voir. Écoutez, vous pouvez attendre ou vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors Guillaume, on se réécoute demain?
Allez, avec plaisir qu'on se réécoute demain.
Miguel, bate, jaque, mate. Miguel, bate, jaque, mate.
Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera.
Revisa sus guías y acompáñenos esta noche de show.
Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. representando la vieja escuela. Aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' mata cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.